Chapitre 54. Le Gritch n'était plus là quand nous nous retrouvâmes de l'autre côté du portail. Au bout d'un moment, j'abaissai le canon de mon fusil et regardai autour de moi. Le fleuve à cet endroit était large et peu profond. Le ciel était d'un bleu soutenu, plus foncé que le lapis d'Hyperion. Des stratocumulus étaient visibles au nord, les colonnes de nuages semblaient accrocher la lumière du couchant, et un rapide coup d'œil en arrière nous montra un énorme soleil bas sur l'horizon. J'avais l'impression que nous étions juste avant le crépuscule plutôt qu'un peu après l'aube. Les rives du fleuve consistaient en rochers nus, herbes folles et terres cendreuses. L'air lui-même était imprégné de cendres, comme si nous traversions un terrain récemment dévasté par un incendie de forêt. La végétation basse renforçait cette impression. Sur notre droite, à plusieurs kilomètres de là, apparemment, se dressait un volcan bouclier aux pentes noircies.
« C'est bien le bosquet de Dieu, je pense, » nous dit Abétik. « Et voilà les restes de l'arbre-monde. »
Je regardais de nouveau le cône volcanique noirci. Il me semblait impossible qu'un arbre aussi gros eût jamais existé.
« Où est le Gritch ?» demandai-je.
Aîné se leva pour aller à l'endroit où la créature s'était tenue quelques instants plus tôt. Elle balaya l'air de sa main, comme si le monstre était devenu invisible.
« Tenez-vous bien !» répétai-je.
Le radeau arrivait sur des rapides plus modestes. Je retournai me mettre à la godille, que je libérais de ses attaches. Pendant ce temps, l'androïde et la fillette s'occupèrent des perches de chaque côté. Nous commencions à être secoués et ballottés. Le radeau menaçait de se renverser, mais la zone d'écume blanche fut vite franchie.
« C'était marrant !»
s'écria Aîné. Il y avait longtemps que je ne l'avais vu si animé.
« Oui !» reconnus-je. « Mais le radeau est en train de se disloquer !»
C'était peut-être une légère exagération, mais il y avait du vrai dans ce que je disais. Les rondins à l'avant étaient sur le point de se détacher. Notre matériel n'était plus arrimé, et seule la micro-toile de tente affaissée les retenait encore.
« Il y a un endroit plat où nous pouvons accoster, » nous dit Abétik en montrant du doigt une petite zone herbeuse sur la rive. « Plus loin, nous risquons d'avoir des problèmes dans les collines. »
Je sortis mes jumelles pour scruter les crêtes noires.
Ah, « Vous avez raison, » lui dis-je. « Il doit y avoir d'autres rapides devant nous, et nous ne pourrons plus aborder avant longtemps. Faisons quelques réparations ici. »
L'androïde et l'enfant nous poussèrent vers la rive droite. Je sautai à terre le premier et hissai le radeau un peu plus haut sur le terrain boueux. Les dégâts à l'avant et à tribord n'étaient pas trop étendus. Il y avait juste quelques rondins fendus et des attaches en cuir de spectre à refaire. Je jetai un coup d'œil au fleuve en amont. Le soleil était un peu plus bas sur l'horizon, mais il devait nous rester encore une bonne heure de lumière.
« On campe ici pour la nuit ou on continue ?» demandai-je.
Il me semblait que c'était un bon endroit. Le dernier, peut-être.
« On continue !»
fit Aîné avec force, sans hésiter. Je comprenais ce qu'elle ressentait. C'était toujours le matin sur Comriad.
« Je n'aimerais pas être pris dans des rapides la nuit tombée, » déclarai-je.
Elle plissa les yeux en se tournant vers l'orbe du soleil.
« Et moi, je ne veux pas être dans le coin quand il fera nuit, » dit-elle. « Continuons le plus loin possible. »
Elle m'emprunta les jumelles et étudia les crêtes noires qui se succédaient sur notre droite, ainsi que les collines sombres que l'on apercevait au loin sur la rive gauche du fleuve.
« Ils n'auraient pas fait passer leur circuit par ici s'il y avait des rapides dangereux, »
estima-t-elle.
« À mon avis, » fit Abétik après s'être raclé la gorge, « la majeure partie de ces coulées de lave date de l'offensive extro contre cette planète, qui a pu causer des perturbations sismiques susceptibles de donner naissance à des rapides difficilement franchissables. »«
Les extros n'y sont pour rien, »
murmura Aîné. « Qu'est-ce que tu as dit ? » interrogeai-je.
« Les extros ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. C'est le technocentre qui a constitué une flotte pour attaquer le Retz, en faisant croire que c'était les extros. »
« D'accord, » murmurai-je. J'avais oublié que Martin Silenus avait écrit à peu près la même chose vers la fin de ses cantos. Ce passage ne m'avait pas paru avoir une grande signification quand j'avais étudié le poème. Et il me
semblait totalement hors de propos ici.
Tout ça n'empêche pas que les collines brûlées soient là, ainsi que des passages d'eau tumultueuse ou de cataractes peut-être. Et il n'est pas certain que le radeau puisse les franchir.
Elle remit les lunettes dans mon paquetage en hochant la tête.
Si c'est impossible, tant pis. Nous continuerons à pied ou à la nage jusqu'au prochain portail. Mais finissons les réparations et allons le plus loin possible. Si nous voyons des rapides trop dangereux, nous accosterons plus vite.
Et s'il n'y a plus de rives, mais uniquement des falaises? Ces formations de lave ne me disent rien qui vaille.
Elle haussa les épaules.
Dans ce cas, nous ferons de l'escalade et un peu de marche à pied.
J'avoue que j'admirais cet enfant ce soir-là. Je savais qu'elle était épuisée, accablée par des émotions dont je ne saisissais pas très bien la nature, terrorisée même. Mais à aucun moment je ne l'avais vue disposée à baisser les bras.
Au moins, déclarai-je, le Gritch est parti. C'est bon signe.
Elle se contenta de me regarder, en essayant vainement d'esquisser un sourire. Les réparations nous prirent 20 minutes. Nous refîmes les attaches défectueuses en faisant passer à l'avant un certain nombre de rondins du centre. Puis nous étalâmes la micro-toile sur le pont pour garder les pieds au sec.
Si nous devons voyager dans l'obscurité, suggéra Aîné, il nous faudrait un nouveau mât pour la lanterne.
Je sais, murmurai-je. J'avais gardé un tronc pour cet usage et nous le plaçâmes dans son logement en l'attachant solidement. Avec mon couteau, je taillais une encoche pour la poignée de la lanterne.
« On l'allume maintenant ?» demandai-je.
« Pas encore, »
murmura Aîné en observant le soleil couchant derrière nous.
« Très bien, » déclarai-je. « Si nous devons être secoués par des rapides, il faudrait ranger quelques affaires dans nos paquetages et mettre les denrées fragiles dans nos sacs étanches. »
Nous nous mîmes à l'œuvre. Dans mon sac à dos, je plaçais une chemise de rechange, une corde supplémentaire, le fusil à plasma avec ses munitions, une lampe de casque et la torche laser. J'allais jeter le persoc inutile au fond de mon paquetage habituel lorsque je me ravisais. Il ne sert à rien, mais il ne pèse pas lourd. Je l'enfilai à mon poignet. Nous l'avions rechargé, de même que la torche laser et les lampes de casque à l'hôpital de Comriade.
Tout le monde est prêt ? Demandai-je en commençant à pousser le radeau à l'eau.
Il avait meilleure allure à présent avec son tapis de sol, son nouveau mât avec la lanterne et tout le matériel arrimé solidement.
Allons-y,
fit Aîné. Abétique poussa sur sa perche. Nous nous écartâmes rapidement de la rive pour gagner le milieu du fleuve. Le courant était rapide, au moins 20 ou 25 km à l'heure. Le soleil n'était pas encore couché lorsque nous entrâmes dans la zone de lave noire. Les rives se transformèrent de chaque côté en falaises. L'eau bouillonnait par endroits et l'avant du radeau commençait à taper de plus en plus fort, mais nous restions au sec. Je cherchais du regard un endroit où accoster d'urgence si nous entendions des bruits de cataractes ou de rapides, mais je n'en trouvais aucun. Les seuls endroits plats étaient isolés au milieu d'un terrain trop accidenté pour continuer à pied. Je remarquais cependant que la végétation était plus dense dans les anfractuosités. Il y avait des épines bleues et même des séquoias nains dont le soleil couchant éclairait les branches hautes d'une riche lumière. J'étais en train de songer que nous pourrions sortir des sacs étanches quelques vivres pour le déjeuner, ou plutôt le dîner, je ne savais plus très bien, afin de les réchauffer, lorsque Abétic s'écria
« Rapide, droit devant !»
Je me penchai en avant, appuyé à la godille pour regarder. Il y avait des rochers qui affleuraient, de l'eau blanche et un peu d'écume. Mon œil exercé de batelier du camp me permit d'évaluer très vite la difficulté du passage.
« Ne vous inquiétez pas, » dis-je à mes compagnons d'une voix rassurante. « Tenez-vous bien, déplacez-vous vers le centre si cela secoue trop. Poussez très fort avec vos perches quand je vous donnerai le signal. Le principal est de garder l'avant toujours dans la bonne direction. On va y arriver. Si vous tombez à l'eau, nagez dans l'axe du radeau. Je laisserai filer une ligne. »
Le cordage était déjà tout prêt, lové sous mon pied. je n'aimais pas beaucoup l'aspect des blocs et des parois de lave noire sur la rive droite devant nous, mais le cours du fleuve semblait plus calme et plus large à cet endroit. Si c'était là toutes les difficultés qui nous attendaient, nous pouvions très bien continuer à naviguer toute la nuit à la lueur de la lanterne et de la torche laser. Tous les trois, nous nous concentrions de toutes nos forces sur l'alignement du radeau à l'entrée des rapides. Il fallait éviter les rochers à fleur d'eau au milieu de l'écume. Si un tourbillon ne nous avait pas fait faire un double tête-à-queue, tout aurait été terminé pour nous avant que je ne comprenne ce qui se passait. Même ainsi, ce fut de justesse. Aîné hurlait de ravissement. J'avais un sourire béat. Même Abétic était joyeux. L'eau un peu tumultueuse a souvent cet effet sur les gens. Je savais cela par expérience. Un rapide de force 5, ça vous fige généralement les traits en un rictus de terreur, mais des secousses anodines comme celle-là, ça vous met plutôt de bonne humeur. Nous nous lancions d'énergiques injonctions.
« Pousse à droite! Attention à ce rocher! Tiens-toi bien !»
Aîné était juste à ma droite et Abétic se tenait quelques pas derrière nous sur la gauche. Nous venions de faire un tour complet sur nous-mêmes à cause du tourbillon qui entourait le gros rocher que nous venions d'éviter, lorsque je vis, en levant la tête, que le mât qui portait la lanterne à l'avant venait d'être sectionné en plusieurs morceaux.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
eus-je le temps de m'écrier. Puis de vieux souvenirs me revinrent, et avec eux des réflexes que je croyais atrophiés depuis des années. Le radeau était en train de tourbillonner de droite à gauche.
« Baissez-vous ! »
hurlai-je en abandonnant ma perche et en me jetant sur Aîné pour la plaquer sur le pont du radeau. Mais nous roulâmes tous les deux dans l'eau écumeuse. Abétic avait, pour sa part, réagi instantanément. Il s'était jeté à plat ventre vers l'arrière du radeau et les monofilaments qui avaient sectionné comme du beurre le mât et la lanterne avaient dû le manquer de quelques millimètres. D'un bras, je maintenais Aîné par l'épaule. Mes bottes raclèrent le fond rocheux et je me dressais juste à temps pour voir le monofilament sous-marin sectionner le radeau en deux, puis le resectionner tandis que les tourbillons imprimaient au rondin un mouvement tournant. Ces filaments étaient invisibles, naturellement, mais une telle force de coupe ne pouvait signifier qu'une chose. J'avais déjà vu ce genre de truc à l'œuvre sur le continent d'Ursus, où plusieurs de mes camarades de brigade avaient péri. Les rebelles avaient tendu des monofilaments en travers de la route, et un car qui revenait d'une séance de cinéma en ville avec 30 hommes à bord avait été coupé en deux, tous ses occupants décapités. J'essayais de crier un avertissement à l'androïde, mais l'eau rugissait trop fort et me pénétrait dans la bouche. Je voulus m'agripper à un rocher. Ma main glissa, mes pieds dérapèrent, et je pus de justesse me rattraper au rocher suivant. Mon scrotum se ratatinait à l'idée qu'il y avait peut-être d'autres foutus monofilaments du même genre au ras de l'eau, juste au niveau de mon cou. Voyant que le radeau se faisait sectionner une troisième fois, Abétic plongea sous l'eau peu profonde à cet endroit. Mais le courant le projeta aussitôt à la surface. Il leva instinctivement un bras tandis que sa tête restait immergée. Il y eut une brève giclée de sang rose tandis que le bras était tranché juste au-dessous du coude. Il sortit la tête de l'eau, mais ne proféra aucun son. De sa main droite intacte, il saisit un rocher et s'y agrippa tandis que son bras gauche, dont la main était encore agitée de spasmes, était emporté par le courant.
« Seigneur Jésus !»
m'écriai-je.
« Merde de merde !»
Aîné releva la tête pour me regarder avec des yeux égarés. Mais je ne lus aucune panique dans son regard.
« Ça va ?»
hurlai-je pour couvrir le bruit des rapides. Un monofilament tranche si net qu'on peut perdre une jambe sans s'en apercevoir pendant 30 secondes. Elle hocha affirmativement la tête.
« Accroche-toi à mon cou !»
hurlai-je. Il fallait que j'aie les bras libres. Elle obéit. Je sentis ses mains froides autour de ma nuque. L'eau était glacée.
« Merde de merde de merde !»
répétais-je comme un mantra tout en fouillant de la main gauche dans mon sac à dos. Mon pistolet était dans son étui, coincé entre ma hanche droite et le lit du cours d'eau. Il y avait moins d'un mètre de profondeur en certains endroits. Même pas de quoi plonger pour se mettre à l'abri quand le tireur embusqué se mettrait à nous canarder. Mais ça ne servirait à rien, de toute manière, si c'était pour nous faire emporter par le courant vers les monofilaments mortels. Je vis que l'androïde tenait bon, agrippé à son rocher 8 ou 10 mètres en aval. Il sortit de l'eau son moignon de bras gauche et le sang gicla. je le vis faire la grimace et devenir blême. Est-ce qu'il meurt de la même manière que les humains ? Me demandai-je, mais je chassai aussitôt cette pensée. Son sang avait une couleur vermeille. Je scrutai du regard les coulées de lave et les éboulis rocheux qui bordaient les rives, à la recherche d'un reflet du soleil couchant sur le métal d'une arme. Le tireur planqué n'allait pas tarder à se manifester. Nous n'entendrions même pas la détonation. L'embuscade était un chef-d'œuvre, parfaitement dans les règles. Et je nous avais littéralement précipités dedans. Je trouvai la torche que je cherchais dans le sac, le refermai et coinçai le cylindre de métal entre mes dents. Je défis mon ceinturon sous l'eau, en me contorsionnant, et le tendis à Aîné en lui faisant signe de sortir le pistolet avec sa main libre. Sans me lâcher la nuque de son bras gauche, elle fit ce que je lui demandais. Je savais qu'elle ne consentirait jamais à utiliser l'arme, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance pour le moment. C'était du ceinturon dont j'avais besoin. Je me contorsionnais de nouveau, coinçant ma torche laser sous mon menton et la maintenant en place, tandis que ma main gauche redressait la bande de cuir.
« Bétic !»
appelai-je. L'androïde tourna vers nous des yeux hagards où se lisait la souffrance.
« Attrapez ça !»
lui criai-je. Je lançai le ceinturon dans sa direction, le plus loin possible. Je faillis perdre la torche laser dans la manœuvre, mais je la rattrapai au dernier moment et je la gardai dans ma main gauche. L'androïde ne pouvait pas lâcher le rocher de sa main droite. Il n'avait plus de main gauche, mais il utilisa son moignon sanglant et son épaule pour bloquer le ceinturon tourbillonnant au passage. J'avais parfaitement bien visé. Mais je savais que je ne disposais que d'un seul essai.
« Le Medipack !»
hurlai-je en penchant la tête vers le paquetage secoué à côté de moi par le courant.
« Un garrot ! Vite !»
J'ignore s'il m'entendit, mais il n'en avait pas besoin. Plaqué au rocher par le courant, il passa le ceinturon de cuir autour de son moignon de bras gauche et serra avec ses dents. Il n'y avait pas de trou si bas, mais il fit un deuxième tour et tira d'un mouvement de tête en arrière pour bloquer le garrot. Entre-temps, j'avais allumé la torche, réglée sur faisceau large, afin de balayer la rive. Le monofilament n'était pas supraconducteur. Autrement, il n'aurait pas brillé. Le faisceau de la torche mit en évidence tout un réseau de fils chauffés au rouge qui ressemblait à un entrecroisement de rayons laser partant dans tous les sens et même sous l'eau. Abétique était passé de justesse sous certains d'entre eux. Il disparaissait à sa droite et à sa gauche sous la surface du fleuve. Les premiers commençaient à 1 mètre à peine des pieds d'Aîné. Je balayais l'air avec le faisceau au-dessus de nos têtes, puis à droite et à gauche, il n'y avait rien. Les filaments qui entouraient Abétique continuèrent à rougeoyer durant quelques secondes, tandis que leur chaleur se dissipait, puis disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Je les éclairai de nouveau. Ils se mirent à briller. Puis je mis la torche sur faisceau serré. Le filament que je visais devint d'un blanc brillant, sans fondre pour autant. Ce n'étaient pas des supraconducteurs, mais l'énergie que ma torche était capable de diffuser ne suffisait pas à les détruire. Où est le tireur embusqué? Ce n'était peut-être qu'un piège passif. Il datait peut-être de plusieurs années sans que personne attende en embuscade. Je n'y croyais pas trop. Je voyais la main valide de l'androïde glisser peu à peu du rocher, tandis que le courant menaçait de l'emporter. « Merde de merde » murmurai-je. Je glissai le laser dans mon pantalon à ma taille et saisis fermement Aîné de ma main gauche. « Agrippe-toi » lui dis-je. En m'aidant de mon bras droit, je nous hissai au sommet du rocher glissant. Il était de forme plus ou moins triangulaire. Plaqué par le courant contre la face orientée vers l'amont, j'aidai Aîné à se percher dessus. « Tu tiendras bon ?» demandai-je.
« Oui !»
Elle avait le visage blême. Ses cheveux étaient collés à son crâne. Ses joues et sa tempe étaient égratignées, et elle avait une ecchymose au milieu du menton. Mais elle ne semblait pas blessée à part cela. Je lui donnai une petite tape sur l'épaule, m'assurai qu'elle entourait bien le rocher de ses deux bras et me lâchai. J'aperçus le radeau en aval. Il était en 5 ou 6 morceaux que le courant emportait rapidement vers les falaises de lave. Les jambes en avant, essayant de me diriger tant bien que mal en prenant appui sur le fond mais ballotté par le courant, je réussis à gagner le rocher de l'androïde sans l'en déloger. Je la grippai vigoureusement et m'aperçus que sa chemise était toute déchirée. Le sang coulait de plusieurs blessures sur sa peau bleue. Mais c'était son bras gauche que je voulais voir. Il gémit de douleur lorsque je soulevais le moignon. Le garrot réduisait l'hémorragie, mais pas suffisamment. L'eau était rouge autour de lui. Cela me fit songer au requin arc-en-ciel de Mare Infinitus. Je frissonnais.
« Venez !»
l'encourageai-je en décollant sa main glacée du rocher.
« On ne va pas rester là !»
L'eau ne m'arrivait qu'à la taille lorsque j'étais debout, mais elle avait la force de plusieurs lances à incendie. Malgré l'état de choc où il se trouvait et tout le sang qu'il avait perdu, Abétic réagit, nos bottes prirent appui sur le lit rocheux du fleuve.
« Qu'est-ce que ce tireur embusqué attend pour nous canarder ?»
Cela me causait une drôle de sensation entre les omoplates. La rive la plus proche était sur notre droite. Il y avait là une petite plage herbeuse, le dernier endroit accessible de tout le secteur que j'apercevais à perte de vue en aval. C'était alléchant. Un peu trop alléchant même. D'un autre côté, Aîné s'agrippait toujours à son rocher, 8 mètres en amont. Abétic passa son bras valide autour de mon épaule. Chancelant, trébuchant, perdant pied, nous propulsant à l'aide du fond ou nageant par à-coups, nous remontâmes peu à peu le courant. L'eau nous giflait et nous aveuglait à moitié. Je ne voyais plus rien lorsque nous atteignîmes le rocher d'Aîné. Ses doigts étaient blancs de froid et de fatigue.
« La rive !»
me cria-t-elle tandis que je l'aidais à prendre pied dans le lit du fleuve. Mais notre premier pas nous précipita dans un trou. Le courant jaillit sur sa figure, qui devint blanche d'écume.
« Vers l'amont !»
hurlai-je en secouant la tête. Nous avançâmes tous les trois de front, courbés en avant pour mieux résister au courant. Seule une énergie farouche me faisait progresser en entraînant mes amis. Chaque fois qu'un remous menaçait de nous faire tomber, je m'imaginais aussi solide et inébranlable que l'arbre-monde qui se dressait jadis un peu plus au sud, ses racines profondément ancrées dans le roc. J'avais repéré un tronc coincé entre deux rochers en amont à 20 de mètres de nous, non loin de la rive droite. Si nous pouvions nous abriter derrière lui, je savais qu'il fallait s'occuper du bras de l'androïde de toute urgence avec le Medipack, sans quoi il allait mourir. Si nous tentions de le faire ici, dans l'eau, le courant risquait de tout emporter. Mais je ne voulais pas non plus céder à la tentation de grimper sur la rive à l'endroit où la petite plage semblait si accueillante.
Les monofilaments.
Je pris la torche laser passée à ma taille et l'allumai pour balayer de son faisceau l'espace situé en amont au-dessus de l'eau. Il n'y en avait pas.
Mais il peut y en avoir sous l'eau, au niveau des chevilles.
Je fis taire mon imagination délirante et continuai de tirer mes deux compagnons à contre-courant. La torche glissait dans ma main. Je sentais que l'androïde faiblissait et allait me lâcher l'épaule d'un moment à l'autre. Aîné s'accrochait à mon bras gauche comme si c'était son unique bouée de sauvetage.
Et c'était bien cela.
Nous avions gagné un peu moins de 10 mètres en remontant le courant lorsque l'eau explosa devant nous. Je faillis être projeté en arrière. La tête d'Aîné disparut sous l'eau et je dus la faire remonter à la surface en agrippant sa chemise pendant que Abétic s'affaissait contre moi.
Soudain, le Gritch surgit au milieu du fleuve, à quelques mètres devant nous en amont, ses yeux rouges lançant des éclairs, ses bras levés.
« Bon Dieu de merde !»
J'ignore lequel de nous lança son exclamation le premier. Peut-être tous les trois en même temps. Nous nous tournâmes pour regarder par-dessus nos épaules, tandis que les lames d'acier des doigts de la créature déchiraient l'air à quelques centimètres de nous. Abétic s'affaissa dans l'eau. Je le rattrapai par l'aisselle et le remis debout. La tentation de se laisser aller avec le courant était très forte. Aîné trébucha, se rétablit, et me montra du doigt la rive droite. Je hochai la tête et nous luttâmes pour aller dans cette direction. Derrière nous, le Gritch se tenait toujours au milieu du courant, ses 4 bras métalliques levés et oscillant comme la queue d'un scorpion. Mais lorsque je le quittais des yeux un instant pour me tourner de nouveau vers lui, il avait disparu. Nous perdîmes l'équilibre 5 ou 6 fois avant que mes pieds trouvent de la vase aux abords de la rive. Je poussais Aîné sur l'herbe, puis m'occupais de l'androïde. J'avais toujours de l'eau jusqu'à la taille. je n'avais même plus la force de grimper sur la rive. Je lançai mon paquetage au sec.
« Le Medipack !»
criai-je d'une voix étranglée. Je voulus me hisser à mon tour, mais mes bras n'obéissaient plus, et toute la partie inférieure de mon corps était paralysée par l'eau glacée. Bien que ses doigts fussent aussi figés que les miens, Aîné réussit à sortir le Medipack avec le garrot. Abétique avait perdu conscience. Elle fixa sur lui les pastilles de diagnostic, retira mon ceinturon et passa le brassard du garrot autour de son moignon. Il se gonfla aussitôt avec un sifflement tandis qu'une aiguille injectait automatiquement à l'androïde un produit analgésique et peut-être un stimulant. Les lumières du moniteur se mirent à clignoter de manière pressante. Je réussis enfin à me hisser sur la rive. Mes dents claquaient lorsque je demandais à Aîné
« Où est le pistolet ?»
Elle secoua la tête. Ses dents s'entrechoquaient aussi fort que les miennes.
« Je l'ai perdu quand le Gritch a surgi !»
J'eus à peine la force de hocher la tête. Le monstre n'était plus nulle part en vue.
« Il est peut-être reparti !» balbutiai-je.
Nous avions perdu notre couverture isotherme en même temps que toutes nos affaires, à l'exception de mon sac à dos. Je relevai la tête pour scruter le fleuve en aval. Les dernières lueurs du couchant éclairaient encore le sommet des arbres, mais les gorges étaient dans l'ombre. J'aperçus alors une femme qui s'avançait vers nous sur le plateau de lave. Je braquai sur elle ma torche laser, en essayant de la régler sur faisceau étroit avec mes doigts gourds.
« Vous n'avez tout de même pas l'intention d'utiliser ce truc-là contre moi, j'espère ?»
me demanda l'apparition d'une voix amusée. Aîné leva les yeux de son moniteur de diagnostic et la regarda, médusée. Elle portait un uniforme rouge et noir que j'étais incapable d'identifier. Elle n'était pas très grande, ses cheveux coupés courts étaient noirs et son visage blême sous la lumière déclinante du jour. Sa main droite, jusqu'au-dessus du poignet, semblait écorchée et incrustée de petits os en fibres de carbone. Aîné se mit à trembler, ni de froid ni de peur, mais de je ne sais quelle émotion beaucoup plus intense. Ses yeux se plissèrent, et j'aurais pu décrire son expression, à ce moment-là, comme un mélange d'agressivité sauvage et d'intrépidité. Sa petite main glacée se crispa en un poing serré. La femme éclata de rire.
« Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intéressant, » dit-elle en s'avançant sur la petite plage herbeuse.
Chapitre 55. L'après-midi pour Némès avait été long et monotone. Elle avait sommeillé quelques heures pour se réveiller quand elle avait senti la disruption de déplacement due à l'activation du portail d'Istrans, une quinzaine de kilomètres en amont. Elle s'était alors cachée parmi les rochers pour attendre que le piège fonctionne au deuxième acte. Le deuxième acte, en fait, avait été une bouffonnerie. Elle les avait regardés en train de se débattre ridiculement pour sauver un homme artificiel manchot. Son intérêt avait été éveillé lorsque le Gritch avait fait sa curieuse apparition. Elle savait que le monstre était dans le coin naturellement, puisque les vibrations qu'il émettait chaque fois qu'il se déplaçait dans le continuum n'étaient pas sans analogie avec celles qui accompagnaient l'ouverture du portail. Elle s'était même mise en mode rapide pour le voir s'avancer au milieu du courant, afin de jouer au croque-mitaine devant les humains. Ce comportement la rendait perplexe. À quoi s'amusait donc la créature archaïque? À empêcher les humains de s'enfoncer dans son piège ou à les rabattre vers elle comme un bon chien de berger? Elle savait que la réponse dépendait des puissances qui avaient envoyé ici ce monstre bardé de ferraille. Le problème n'était pas là. Le technocentre pensait généralement que le Gritch avait été créé puis envoyé en arrière dans le temps par l'une des manifestations précoces de l'IU. On savait que le Gritch avait échoué dans sa mission et qu'il serait de nouveau battu dans un avenir lointain au cours des luttes qui mettraient aux prises l'IU encore fragile des humains avec le dieu-machine parvenu à maturité. Dans tous les cas, le Gritch était un échec et une quantité négligeable dans cette mission. le seul intérêt qu'il avait pour Némès était son espoir faiblissant de le voir mettre un peu de piquant comme adversaire dans cet affrontement inégal. Pour le moment, le spectacle des humains épuisés et d'un androïde manchot et comateux l'ennuie souverainement. Cela lui donne envie d'agir. Elle rajuste le sac à prélèvement sous sa ceinture et glisse la carte du piège à sphinx dans son bracelet adhésif de poignet. Puis elle s'avance sur la roche en direction de la petite plage herbeuse. Le jeune homme, Roll, a un genou au sol. Il essaie de régler un laser de faible puissance qu'il pointe sur elle.
« Vous n'avez tout de même pas l'intention d'utiliser ce truc-là contre moi, j'espère »
demande-t-elle sans pouvoir réprimer un sourire. Il ne lui répond pas. Il braque le laser sur elle. Elle se dit que s'il l'utilise, peut-être dans l'intention de l'aveugler, elle se déphasera et lui enfoncera l'engin sans l'éteindre jusque dans le côlon et l'intestin grêle. Pour la première fois, Aîné pose les yeux sur elle. Némès comprend pourquoi le centre est si inquiet à propos du potentiel de cette jeune humaine. Les éléments d'accès à l'espace Kili miroitent autour d'elle comme de l'électricité statique. Mais Némès voit aussi qu'il lui faudra des années pour apprendre à utiliser ses potentialités dans ce domaine. Tout ce Sturm und Drang, toute cette précipitation ont été inutiles. La fillette humaine n'est pas seulement immature en ce qui concerne l'utilisation de ses pouvoirs, elle ignore jusqu'à leur signification véritable. Némès se rend compte à présent qu'elle ressentait, sans le savoir, une certaine mesure d'anxiété à l'idée que l'enfant pourrait lui poser un problème dans les dernières secondes, peut-être en faisant appel à une interface de l'espace Kili susceptible de créer des difficultés. Mais elle a eu tort de surévaluer ses possibilités. Paradoxalement, c'est un sentiment de déception qui s'impose.
« Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intéressant, »
dit-elle en faisant un pas de plus en avant.
« Qu'est-ce que vous nous voulez ?»
demande le jeune Roll en faisant un effort pour se relever. Némès voit qu'il est épuisé d'avoir sorti ses amis de la rivière.
« Je ne vous veux rien, » dit-elle d'une voix tranquille. « Je ne veux rien non plus à votre ami à la peau bleue qui est en train de mourir. Je ne désire que quelques secondes de conversation avec Aîné. »
Du menton, elle désigne le bosquet voisin où elle a semé les mines.
« Si vous emmeniez votre golem parmi ces arbres en attendant que la jeune fille vous rejoigne, »
suggère-t-elle.
« Juste un mot en privé et elle est à vous. »
Elle fait un nouveau pas en avant.
« N'avancez plus !»
dit Roll en levant sa petite torche laser. Némès lève les mains comme si elle était effrayée.
« Non, non, ne tirez pas, mon vieux !»
dit-elle. Même si le rayon avait 10 000 fois la puissance dont il est capable, elle n'aurait pas à s'en inquiéter.
« Reculez !»
ordonne Roll, le pouce sur le bouton de déclenchement. Le jouet laser vise Némès entre les deux yeux.
« D'accord, d'accord !»
murmure-t-elle en reculant d'un pas. Puis elle se déphase et se transforme en une vague silhouette chromée au contour seulement à moitié humain.
« Roll !»
s'écrie Aîné. Némès s'ennuie sérieusement. Elle passe en mode rapide. Le tableau se fiche devant elle. La bouche d'Aîné est ouverte. Elle est encore en train de parler, mais les vibrations de l'air sont figées. Le fleuve bouillonnant est figé lui aussi, comme dans un instantané à la vitesse d'obturation incroyablement élevée. Des gouttelettes d'écume sont en suspens dans l'air. Une autre gouttelette flotte à 1 mm sous le menton mouillé de Roll. Némès s'avance pour prendre la torche de la main de Roll. Elle est tentée de suivre sa première impulsion maintenant et de revenir en temps ralenti pour observer les réactions de tout le monde. Mais elle voit Aîné du coin de l'œil. Elle a toujours le poing crispé. Et Némès se dit qu'elle a du pain sur la planche avant de pouvoir s'amuser. Elle abandonne la couche morphique déphasée suffisamment longtemps pour prendre le sac à prélèvement dans sa ceinture. Puis elle se redéphase. Elle s'avance vers la fillette accroupie et ouvre le sac sous son menton avec sa main gauche pour recueillir la tête tout en rigidifiant le tranchant de sa main droite déphasée de manière à disposer d'une lame acérée tout aussi efficace que le monofilament encore tendu au-dessus du fleuve. Elle sourit derrière son masque chromé. « Adieu, ma grande, » murmure-t-elle. Elle a écouté leur conversation quand ils étaient tous les trois à des kilomètres en amont. Elle commence à décrire de sa main tranchante un arc de cercle meurtrier.
Que se passe-t-il encore ?
S'écrie le caporal qui.
Je ne vois plus rien !
Silence !
Ordonne de Soya. Les deux hommes sont dans leur fauteuil de commandement, penchés sur les moniteurs des télescopes.
Nemes s'est transformé en, je ne sais pas, quelque chose de métallique,
fait qui, repassant la séquence vidéo en incrustation pendant qu'il continue d'observer ce qui se passe en bas.
Le radar ne la voit plus,
s'étonne de Soya en essayant plusieurs modes de détection.
Il n'y a rien non plus aux infrarouges, bien que la température ambiante se soit élevée de 10 degrés Celsius dans les environs immédiats. Je note une forte ionisation.
Une perturbation météo locale ?
Demande Ki, étonné. Avant que de Soya puisse répondre, Ki lui montre le moniteur.
Qu'est-ce qui se passe encore ? La fille est tombée. Il se passe quelque chose. Ce type ?
Roland Dimion,
murmure de Soya qui s'efforce d'améliorer la qualité de l'image sur le moniteur. La température en hausse et les turbulences atmosphériques font miroiter l'image, qui devient floue en dépit des efforts de l'ordinateur pour la stabiliser. Le Raphaël est toujours stationnaire à 280 km à peine au-dessus du niveau hypothétique de la mer sur le Bosquet de Dieu. C'est beaucoup trop bas pour une orbite géosynchrone, mais suffisamment bas pour que le vaisseau devienne paranoïaque à l'idée que l'expansion atmosphérique ajoute encore à l'échauffement moléculaire qu'il doit affronter. Le père capitaine de Soya en a vu assez pour prendre sa décision.
Réduisez les consommations d'énergie de toutes les fonctions,
ordonne-t-il.
Support de vie au minimum. Poussez le réacteur de fusion à 115%. Désactivez les boucliers de déflexion avant. Réservez l'énergie à l'utilisation tactique.
Il n'est pas très recommandable de,
commence la voix du vaisseau,
annuler toutes les réponses vocales et tous les protocoles de sécurité,
aboie de Soya.
Code de priorité Delta 9920 en vertu du disque papal. Exécution immédiate. Confirmation des paramètres sur écran.
Tandis que les moniteurs se remplissent de colonnes d'informations en surimpression par rapport à l'image animée de ce qui se passe au sol, Ki observe le spectacle avec de grands yeux en murmurant
« Tout Jésus, Dieu du ciel !»«
Je sais, » chuchote de Soya.
Sur l'écran, les sources d'énergie de tous les systèmes, à l'exception des moniteurs visuels et tactiques, descendent au-dessous de la ligne rouge. C'est alors que commencent les explosions à la surface. À ce stade, j'eus à peine le temps de percevoir un écho rétinien de la jeune femme en train de se transformer en une image floue argentée. Je clignai des yeux et la torche laser m'échappa des doigts. L'air était en train de devenir super chaud. Autour des nez, un tourbillon flou se forma soudain au centre duquel semblait évoluer à toute vitesse une silhouette chromée hérissée de lames avec 6 bras et 4 jambes. Je bondis vers Aîné, sachant que je n'arriverais jamais à accomplir quoi que ce soit à temps, mais je pus la saisir aisément, à mon grand étonnement, pour la forcer à se jeter dans l'herbe et à se laisser rouler à l'écart du tourbillon brûlant. L'alarme sonore du Medipack retentit comme le crissement d'un ongle sur une ardoise. Impossible d'ignorer un tel bruit. Nous étions en train de perdre Abétic. Couvrant Aîné de mon corps, je rampais avec elle en direction de l'homme bleu. C'est alors que les explosions commencèrent dans le bosquet juste derrière nous. Nemes abat son bras, en s'attendant à ne rien sentir lorsque le tranchant de sa main entamera les muscles et les vertèbres, mais un violent impact la fait sursauter. Elle baisse les yeux. Sa main déphasée est prise entre 2 lames de métal courbes et acérées. Son avant-bras est prisonnier de 2 autres mains en forme de scalpel. La masse du Gritch la domine. Les piquants de son abdomen sont presque en contact avec le visage figé de la fillette. Les yeux du monstre sont d'un rouge étincelant. Nemes est prise au dépourvu, mais elle se sent surtout irritée. Elle n'est pas inquiète cependant. Elle retire sa main et fait un bond en arrière. Le tableau environnant est exactement ce qu'il était à la seconde précédente. Le fleuve est gelé, la main de Roll Endymion se crispe sur la crosse de son ridicule laser pour enfoncer le bouton, l'androïde est en train de mourir dans l'herbe avec tous les voyants de son Medipack figés au milieu d'un clignotement. Seule la fillette a changé, la masse du Gritch projetant maintenant son ombre sur elle. Nemes sourit derrière son masque de chrome. Elle s'est trop concentrée sur la nuque de la fillette et elle n'a pas vu ce gros lourdeau arriver sur elle en mode rapide. C'est une erreur qu'elle ne commettra pas deux fois. «
Tu la veux ?» demande-t-elle avec un rictus.
« On t'a envoyé aussi pour la tuer ?»«
Ne te gêne pas pour moi.
Pourvu que tu me laisses la tête. » Le Gritch retire ses bras et fait le tour de l'enfant. Ses épines et les lames de ses genoux passent à moins d'un centimètre d'elle. Les pieds écartés, il se dresse de toute sa stature entre la fillette et Nemes.
« Ah, c'est comme ça. Ce n'est pas elle que tu veux. Il va donc falloir que je te la reprenne. »
Se déplaçant encore plus vite qu'en mode rapide, elle feinte à gauche, vire à droite et s'élance. Si l'espace autour d'elle n'avait pas été gauchi par le mouvement, les banques soniques auraient tout fait éclater à des kilomètres à la ronde. Le Gritch part le coup. Des étincelles jaillissent du chrome et des éclairs se déchargent dans le sol. Le monstre griffe l'air à l'endroit où Nemes se trouvait une nanoseconde auparavant. Elle arrive par derrière, lançant un coup de pied à l'enfant avec une telle force que son cœur et son échine devraient jaillir de sa poitrine. Le Gritch dévie le coup et projette Nemes dans les airs. Sa forme floue décrit 30 mètres au milieu des arbres. Elle arrache au passage des branches et des troncs qui restent en suspens dans son sillage. Le Gritch s'élance en accéléré derrière elle. Nemes heurte un rocher dans lequel elle s'incruste de 5 cm. Elle sent que le Gritch passe en temps ralenti tout en se ruant vers elle et elle suit son déplacement jusque dans la zone de bruit et de mouvement. Les arbres craquent, se rompent et s'enflamment. Les mines de sol ne détectent pas de battements de cœur ni de souffle respiratoire, mais elles sentent la pression au sol et bondissent vers la source. Des centaines d'explosions retentissent, formant une véritable réaction en chaîne de charges creuses qui poussent Nemes et la créature l'une vers l'autre, comme les deux moitiés d'une vieille bombe à uranium à implosion. Le Gritch a une très longue lame courbe au milieu de la poitrine. Nemes connaît toutes les histoires que l'on raconte sur les innombrables victimes que le monstre a empalées ainsi pour aller les accrocher ensuite à l'arbre de la douleur, dont les épines étaient encore plus longues. Mais elle n'est pas impressionnée. Tandis que les charges creuses qui explosent autour d'eux la poussent contre le monstre, son champ de déplacement recourbe l'épine de poitrine du Gritch contre lui. Le monstre ouvre sa gueule de pelle mécanique pour hurler dans l'ultrason. Elle lui balance dans le cou un revers de main coupant et l'envoie voler sur 15 mètres jusqu'au fleuve. Ignorant le monstre, elle se tourne alors vers Aîné et les deux autres. Roll s'est jeté sur la fillette pour lui faire un bouclier de son corps. « Comme c'est touchant !» se dit Nemes. Elle passe en mode accéléré, figeant sur place même les nuages tourbillonnants de flammes orangées qui s'étendent à partir de l'endroit où elle se trouve, au cœur de l'explosion en corolle. Elle s'avance au trot à travers le mur semi-solide de l'onde de choc, en direction de la fillette et de son copain. Elle va leur couper la tête à tous les deux. Elle gardera celle de Roll en souvenir quand elle aura livré celle de la fille. Elle est à moins d'un mètre de la gamine quand le Gritch émerge du nuage de vapeur qui monte de la rivière et la pousse du côté gauche. Sa main rate les deux têtes humaines de quelques centimètres. Le Gritch et elle roulent dans la direction opposée à celle du fleuve, laissant dans leur sillage la roche à nu, coupant tous les arbres au passage, jusqu'à ce qu'un nouveau mur de roche les arrête. La carapace du Gritch lance des étincelles, tandis que ses mâchoires de pelleteuse s'ouvrent grand pour se refermer sur la gorge de Nemes.
« Tu veux rigoler ?»
allait-elle sous son masque de déplacement. Elle n'a pas prévu dans son agenda de se faire broyer à mort par un décaletant archaïque. Transformant sa main en couperet, Elle l'enfonce dans le thorax du monstre, dont les multiples rangées de dents font jaillir des étincelles sur son cou blindé. Elle a un rictus de triomphe quand elle sent les quatre doigts tendus de sa main pénétrer l'armure et la carapace. Elle saisit une poignée de ce qu'elle trouve à l'intérieur et l'arrache violemment, en espérant avoir atteint un organe vital. Mais sa main ne ressort qu'avec une série de tendons tranchants comme des rasoirs et de débris de carapace. Tandis que le Gritch vacille en arrière, en agitant ses quatre bras comme des fléaux, ses mâchoires s'ouvrent et se ferment spasmodiquement, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il n'est plus en train de mâcher des morceaux de sa victime.
« Allez, viens !»
s'écrie-t-elle en s'avançant vers la créature. Elle brûle d'envie de la détruire une bonne fois pour toutes. Son sang ne fait qu'un tour dans ses veines, comme disent les humains. Mais elle est assez lucide pour se rendre compte que ce n'est pas son objectif premier. Son objectif est de distraire le monstre ou de le neutraliser suffisamment longtemps pour décapiter la fillette. Ensuite, le Gritch ne fera plus jamais partie de ses préoccupations. Peut-être Némès et ses semblables le mettront-ils dans un zoo pour s'amuser à lui donner la chasse quand ils s'ennuieront trop.
« Allez !»
l'excite-t-elle en faisant un pas en avant. Le monstre est suffisamment blessé pour repasser en mode ralenti sans désactiver les champs de déplacement qui l'entourent. Némès aurait pu le détruire à loisir s'il n'y avait pas eu ces champs. Mais si elle essaie de les contourner à présent, il est capable de se déphaser pour surgir derrière elle. Elle le suit donc en mode ralenti, heureuse de cette occasion d'économiser son énergie.
Bon Jésus !
M'écriai-je en relevant la tête. J'étais couché sur Aînée pour la protéger, et elle regardait ce qui se passait à travers le cercle protecteur de mon bras. Tout arrivait en même temps. L'alarme du Medipack de l'homme bleu faisait entendre sa sonnerie grinçante, l'air était aussi brûlant que le souffle d'un haut fourneau. La forêt derrière nous n'était plus qu'une explosion de bruit et de flammes. Les échardes des arbres que la vapeur super chaude faisait éclater remplissaient l'air au-dessus de nos têtes, le fleuve jaillissait en un geyser de vapeur, et soudain, le Gritch et la forme humaine chromée se livrèrent à un balai mortel à moins de 3 mètres de là. Ignorant le capharnaüm autour de nous, Aînée se dégagea de mon étreinte et rampa en direction de l'endroit où gisait Abétic. Je la suivis, plaquée au sol, sans quitter des yeux l'affrontement titanesque des deux tourbillons d'où l'électricité statique jaillissait en éclairs qui bondissaient parmi les rochers et sur le sol dévasté.
« Réanimation d'urgence !»
s'écria la fillette en commençant à s'occuper de l'androïde. Je passai de l'autre côté de l'homme bleu et lus les indications du Medipack. L'androïde ne respirait plus. Son cœur s'était arrêté de battre 30 secondes plus tôt. Il avait perdu trop de sang. Quelque chose d'argenté et d'acéré vola vers le dos d'Aînée. Je voulus la pousser de côté, mais avant que j'aie eu le temps de la toucher, une autre forme métallique intercepta la première et l'air résonna du choc du métal contre le métal.
« Laisse-moi faire !»
m'écriai-je. Je la tirai de l'autre côté du corps de l'androïde en essayant de la forcer à rester derrière moi pendant que je pratiquais les mouvements de réanimation. Les voyants du Medipack indiquaient que le sang irriguait de nouveau le cerveau grâce à nos efforts. Les poumons recevaient et expulsaient l'air, mais ils ne le faisaient pas sans notre aide. Je continuais les mouvements en rythme, tout en surveillant l'affrontement des deux tourbillons presque supersoniques. Il flottait dans l'air une odeur d'ozone. Le vent apportait des braises de la forêt en flammes, et nous étions entourés de nuages de vapeur sifflantes.
« L'année prochaine !»
s'écria Aînée pour couvrir le tapage en claquant des dents malgré la chaleur des tuves.
« Nous prendrons nos vacances autre part !»
Je levai la tête pour lui jeter un regard ahuri, pensant qu'elle avait soudain perdu la raison. Ses yeux brillaient, mais elle n'était pas encore totalement folle. Tel fut mon diagnostic pendant que le Medipack continuait à crisser et que je poursuivais mes mouvements de réanimation sur Abétic. Derrière nous, il y eut une soudaine implosion, parfaitement audible par-dessus les craquements des flammes, les sifflements de vapeur et le choc des surfaces en métal. Je regardais par-dessus mon épaule sans interrompre les mouvements de réanimation. L'air se mit à miroiter et une seule silhouette chromée se dressa à l'endroit où il y en avait deux qui s'affrontaient un instant plus tôt. Puis la surface métallique ondula et disparut. La femme de tout à l'heure apparut. Ses cheveux n'étaient pas décoiffés, et elle ne manifestait aucun signe d'essoufflement.
« Bon, » fit-elle d'une voix calme. « Où en étions-nous ?»
Elle s'avança sans se presser. Dans les dernières secondes de la bataille, il n'a pas été facile de mettre le piège à sphinx en place. Némès utilise toute son énergie pour lutter contre les lames en mouvement du Gritch. C'est comme si elle se battait contre plusieurs hélices vrombissantes à la fois. Il lui est arrivé de séjourner sur des mondes où il y avait encore des avions à hélices. Deux siècles plus tôt, elle a tué le consul de l'hégémonie sur l'un de ces mondes. À présent, elle évite les bras tourbillonnants sans jamais quitter du regard les deux petits yeux rouges comme des escarboucles. « Ton temps est fini », pense-t-elle à l'adresse du Gritch, tandis que leurs bras et leurs jambes, enrobés de leur champ de déplacement, se fendent et se contrefendent comme des épées tournoyantes invisibles. Tendant subitement la main vers la partie la plus floue du champ du monstre, elle saisit une jointure de son bras et fait voler lame et épine. Le bras tombe, mais les cinq scalpels de la main inférieure lacèrent son abdomen en essayant de l'éventrer à travers son champ de déplacement.
« Oh là !»
s'écrie-t-elle en fauchant sous lui la jambe droite du monstre durant une fraction de seconde.
« Pas si vite !»
Le Gritch titube. Némès profite de ce court instant de vulnérabilité pour faire glisser la carte du sphinx de son bandeau de poignet et l'insérer, à la faveur d'une faille de 5 nanosecondes, dans son champ de déplacement, à plat sur la paume de sa main, en la plaquant contre une épine du cou du Gritch.
« Et voilà !»
s'écrie-t-elle en faisant un bond en arrière. Elle est repassée en mode accéléré, agitant les mains pour empêcher le Gritch d'arracher la carte, qu'elle active en pensant à un cercle rouge. Elle fait un nouveau bond en arrière lorsque le champ hyperentropique entre en action avec un bourdonnement pour propulser le monstre gigotant 5 minutes en avant dans le futur. Tant que ce champ existe, il n'a aucun moyen de revenir. Radamant Némès repasse en mode normal et désactive le champ. La brise, bien que super chaude et chargée de débris ardents, lui paraît délicieusement fraîche.
« Bon !»
dit-elle en savourant le regard des deux humains.
« Où en étions-nous »«
Allez-y !» crie le caporal qui. « Impossible !»
fait de Soya la main crispée sur la poignée du manche tactique universel.
« L'eau du sol ! Explosion de vapeur ! Ce serait leur mort !»
Les indicateurs du Raphaël montrent que toute l'énergie possible a été mobilisée, mais ce n'est pas encore suffisant. Qui abaisse son micro-perle devant sa bouche, règle le bouton sur toutes les fréquences et commence à émettre sur faisceau étroit, en faisant en sorte que le réticule centre bien le garçon et la fille, et non la femme qui s'avance vers eux.
« Ça ne servira à rien !»
lui dit De Soya qui ne s'est jamais senti aussi frustré de sa vie.
« Les rochers !»
est en train de hurler qui ?
« Les rochers !»
J'étais dressé devant la femme, maintenant aînée derrière moi, regrettant de n'avoir sous la main ni pistolet, ni torche laser, ni quoi que ce soit d'autre. Le fusil à plasma était resté dans mon sac étanche, au bord de l'eau, à 2 mètres de moi à peine. Il aurait fallu que j'aille d'un bond ouvrir le sac, défaire la sécurité, déplier la crosse, mettre en joue et tirer. Je doutais que cette créature au sourire glacial m'en laisse le temps ou que la petite aînée soit encore en vie lorsque je presserai la détente. À cet instant précis, le ridicule bracelet Persoc que je portais au poignet se mit à vibrer contre ma peau comme l'une de ces anciennes alarmes silencieuses. Je l'ignorais. Il m'envoya des fourmillements électriques dans le poignet. Je portais le stupide objet à mon oreille. Il me chuchota
« Courez dans les rochers !» « Prenez l'enfant et courez avec elle sur les rochers de lave !»
Ça n'avait aucun sens. Je jetai un coup d'œil aux indicateurs du Medipack en train de fluctuer du jaune au vert. Mais je commençais à reculer en maintenant aîné derrière moi.
« Allons, allons, » me dit la femme. « Ce n'est pas très poli, ça. Aîné, si tu viens gentiment vers moi, ton copain pourra continuer de vivre, et l'homme bleu également. » S'il est capable de s'en occuper.
Je baissai les yeux vers Aînée, craignant qu'elle accepte le marché. mais elle s'accrochait à mon bras, une lueur d'une terrible intensité dans les yeux, sans manifester cependant aucune crainte.
« Ça va aller, ma grande »,
chuchotais-je en continuant de me déplacer avec elle sur notre gauche. Derrière nous, il y avait le fleuve. 5 mètres plus loin sur la gauche, le plateau de lave commençait. La femme obliqua à droite pour se mettre en travers de notre chemin.
« Ça commence à durer trop longtemps »,
murmura-t-elle.
« Je ne dispose plus que de 4 minutes. Mais c'est plus qu'il n'en faut. Une éternité.
« Viens !» Saisissant Aîné par le poignet, je courus vers les rochers. Je n'avais pas le moindre plan. Je n'obéissais qu'aux instructions insensées que le père Soc m'avait données avec une voix qui n'était pas la sienne. Nous n'atteignîmes jamais les rochers de lave. Il y eut un bref souffle d'air chaud, puis la silhouette chromée de la femme s'interposa devant nous, 3 mètres plus haut, perchée sur la lave noire.
« Adieu, Rolandimian !»
dit-elle en levant son bras de chrome miroitant. L'explosion de chaleur me brûla les sourcils, mit le feu à ma chemise et nous projeta en arrière, la fillette et moi, dans les airs. Nous retombâmes durement au sol et nous laissâmes rouler pour échapper à l'insupportable fournaise. Les cheveux d'Aîné rougeoyaient et fumaient comme s'ils étaient prêts de s'embraser. Je les frappais avec mes avant-bras pour empêcher les flammes de naître. Le médipack de l'androïde hurlait de nouveau, mais le rugissement de l'air super chaud derrière nous couvrait presque tout le reste. Je vis que ma manche de chemise était en train de fumer, et je l'arrachais avant qu'elle ne prenne feu. Aîné et moi nous tournâmes le dos à la chaleur en nous éloignant aussi rapidement que possible. Nous avions l'impression de fuir la bouche d'un volcan. Je saisis l'androïde au passage et le traînai vers le fleuve. Nous n'hésitâmes pas une seconde avant de nous laisser glisser dans le courant fumant. Je dus faire des efforts inouïs pour maintenir la tête de l'homme bleu inconscient hors de l'eau pendant qu'Aîné luttait pour empêcher le courant de nous entraîner. Juste au-dessus de la surface de l'eau, là où nos visages étaient presque collés à la vase de la rive, l'air demeurait presque assez frais pour être respirable. Je sentis que des cloques se formaient sur mon front. J'ignorais encore que mes sourcils et des plaques entières de cheveux avaient disparu. Je levai précautionneusement la tête au-dessus du talus de la rive pour regarder ce qui se passait. La forme féminine chromée essayait de venir vers nous, mais le rayon à haute énergie qui la clouait au sol semblait exercer sur elle trop de pression. Elle demeurait cependant debout, et le champ chromé qui l'entourait vira au rouge, puis au vert, puis au blanc aveuglant. Mais elle était toujours debout, le bras levé, secouant le poing vers le ciel. Sous ses pieds, le socle de lave devint rouge et se mit à couler en gros ruisseaux de roches fondues. Une partie se déversa dans le fleuve à moins de 10 mètres de nous en aval, et des nuages de vapeur s'élevèrent accompagnés d'un grand sifflement. À ce moment-là, j'avoue avoir éprouvé pour la première fois de ma vie un sentiment quasi religieux. La silhouette de chrome sembla se rendre compte du danger quelques secondes avant qu'il ne soit trop tard. Elle disparut, reparut sous la forme d'une masse floue, le poing toujours levé vers le ciel, disparut de nouveau, reparut une dernière fois, puis se fondit dans la lave sous ses pieds, là où quelques instants avant se dressaient de solides rochers. Le rayon s'attarda sur cet endroit durant 1 minute entière. J'étais incapable de le fixer des yeux plus longtemps. La chaleur m'excoriait la peau des joues. J'enfouis mon visage dans la boue froide, tout en maintenant Abétique et Aîné contre la rive, pour empêcher le courant de nous emporter vers les coulées de lave et les microfilaments. Levant la tête une dernière fois, je vis le point chromé disparaître sous la surface de la roche en fusion. Puis le champ de force sembla changer de couleur plusieurs fois avant de s'éteindre définitivement. La lave commença aussitôt à refroidir. Avant que j'aie eu le temps de faire sortir de l'eau la fillette et l'homme bleu, puis de reprendre les mouvements de réanimation, la roche se solidifiait de nouveau, à l'exception de quelques coulées secondaires. Des lamelles se détachèrent de la surface et se soulevèrent, portées par des colonnes d'air chaud, pour rejoindre les débris volants de la forêt toujours en flammes derrière nous. Il n'y avait plus aucune trace de la femme de chrome. Chose étonnante, le Medipack fonctionnait encore. Les voyants clignotaient du rouge au jaune, tandis que nous forcions le sang à circuler jusque dans le cerveau et les membres de l'androïde, et que nous lui insufflions la vie. Le garrot était bien serré. Lorsqu'il se remit à respirer à peu près normalement, je regardais Aîné pour lui demander
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
Il y eut une implosion étouffée derrière nous, et je me tournai juste à temps pour voir le Gritch surgir de nulle part.
« Par les larmes du Christ !»
m'exclamai-je doucement. Aîné était en train de secouer la tête. Je vis que ses lèvres et son front étaient également couverts d'ampoules de chaleur. Ses cheveux étaient tombés par plaques et sa chemise était une loque indescriptible. À part cela, elle ne semblait pas blessée.
« Non !»
dit-elle.
« Il ne nous fera rien. »
Je m'étais penché sur mon paquetage pour sortir le fusil à plasma. Mais mon geste était inutile. Le sac avait été exposé aux rayons d'énergie. La sous-garde avait à moitié fondu et tous les éléments en plastique de la crosse pliante avaient fusionné avec le canon de métal. C'était un miracle que les cartouches à plasma n'aient pas explosé. Elles nous auraient vaporisés. Laissant tomber le sac inutile, je fis volte-face pour affronter le Gritch avec mes poings nus. Il faudrait qu'il me passe sur le corps, bordel.
« Ne crains rien !»
répéta Aîné en me tirant en arrière.
« Il ne nous fera rien. C'est terminé. »
Nous nous penchâmes de nouveau sur Abétic. Il battit des paupières en demandant d'une voix rauque
« J'ai raté quelque chose ?»
Nous n'avions pas envie de sourire. Aîné toucha la joue de l'homme bleu et me regarda. Le Gritch demeurait à l'endroit où il était apparu. Des débris enflammés continuaient de voler autour de ses yeux rouges et des escarbilles retombaient sur sa carapace. Abétic ferma les yeux. Les voyants se remirent à clignoter.
« Il faut le conduire quelque part, » chuchotai-je à Aîné. « S'il ne reçoit pas des soins efficaces, il va mourir. »
Elle hocha la tête. Je crus qu'elle me répondait à voix basse, mais ce n'était pas sa voix que j'entendais. Je levai mon bras gauche, ignorant les boursouflures de la peau sous la chemise en lambeaux. Tous les poils de mon avant-bras avaient brûlé. Nous écoutâmes la petite voix qui sortait du persoc. C'était une voix masculine que nous connaissions bien.